Voilà, donc on va évoquer cet après-midi les moulins Sévenol. Alors, tous les randonneurs croisent fréquemment des moulins, ou plus exactement ce qui en reste. Souvent, ce n'est que la légende des cartes d'état-major qui permet de les identifier comme tels. Les moulins constituent en Cévennes un patrimoine important, mais la mémoire en est aujourd'hui fort diluée. Et c'est cette mémoire que nous allons tenter d'aviver ici, comme vous le faites localement avec l'inventaire que vous avez mis en œuvre. Alors, étymologiquement, le vocable moulin, issu du latin moulinum, qui trouve son origine dans mol, la meule, désigne un appareil servant à réduire le grain de céréales en farine. Par extension, c'est aussi le bâtiment qui abrite cet appareil. Et comme toute machine, le moulin fonctionne grâce à un moteur adapté à une source d'énergie. Ce peut être l'effort physique de l'homme ou de l'animal, mais aussi l'énergie du vent, l'énergie hydraulique, et puis plus proche de nous, l'énergie thermique, électrique, etc., etc. Donc le besoin de réduire les céréales en farine est universel dans le temps et l'espace, au moins depuis que l'homme a commencé à cultiver. Depuis ce moment-là, il n'est pas une société qui est échappée à ce besoin. Autant dire que le moulin n'est pas spécifiquement cévenol. Cependant, en Cévennes comme ailleurs, le moulin s'est adapté à un territoire. Ainsi s'est développée une culture du moulin singulière, paramétrée par la nature physique de l'espace, par son histoire et son économie, par des techniques, par la langue, etc., etc. Comme ailleurs, cette culture cévenole du moulin tend à disparaître, consécutivement à la cessation de l'activité meunière. L'essentiel des moulins cévenols ne subsiste qu'à l'état de ruines, voire de simples traces qui s'estompent chaque jour un peu plus. Leur interprétation n'est possible que grâce à une lecture quasi archéologique. Quant au vocabulaire propre à cette activité, comment aurait-il pu survivre à l'abandon du métier et de sa langue originelle ? Donc j'ai conduit ces recherches autour de trois types de sources. Les publications anciennes et surtout les archives, pour l'aspect historique. Les enquêtes orales sur le terrain auprès des derniers meuniers ou de leurs familles, pour le côté technique, les savoir-faire et la mémoire. Et puis, un dépouillement systématique des plus anciens dictionnaires occitans, notamment celui de l'abbé Boissy de Sauvage, remontant au milieu du XVIIIe siècle, et inscrit dans un champ territorial recoupant bien l'acception actuelle des Cévennes. Donc nous allons aborder notre sujet par des généralités historiques et techniques, et puis nous porterons un regard plus pointu sur le type de moulin le plus répandu en Cévennes, des basses vallées jusqu'au mont Lozère. Alors tout d'abord, les généralités historiques et techniques, le moulin à eau, histoire et technique. Et tout d'abord, on envisage rapidement les origines de la mouture. La nécessité de transformer le grain en farine pour mieux l'apprêter est apparue dans l'histoire de l'humanité quand l'homme, à l'époque néolithique, est passé des activités de cueillette, de chasse et de pêche à des activités d'élevage et de production agricole. Deux techniques ont été mises en œuvre pour cette opération. L'une, concasse les grains dans une cuve avec un percuteur. L'autre consiste à les moudre, c'est-à-dire à les écraser entre deux surfaces dures, dont l'une est en mouvement par rapport à l'autre. La première technique est encore en usage dans certaines contrées, dans certaines sociétés d'Afrique ou d'Asie. Il semble qu'elle ait été abandonnée assez tôt chez nous pour la réduction du grain en farine. Néanmoins, le principe associant un mortier et pilon a survécu, réservé à d'autres usages domestiques, en cuisine ou professionnels, comme l'apothicairerie. La technique par écrasement utilisait au néolithique une surface fixe, dite dormante, réalisée en pierre dure, souvent extraite du lit de la rivière, sur laquelle on roulait à deux mains un broyon ou molette, confectionné à partir de notre galet d'une forme allongée et de section à peu près circulaire. À la longue, l'usure de la partie dormante creusait sa surface dans sa partie centrale. On peut voir ce type d'objet dans toutes les collections de préhistoire des musées spécialisés, y compris dans les Cévennes. Avec le couple Metacatilus, très répandu chez les Gallo-Romains, le mouvement de la pierre mobile devient circulaire. On trouve des instruments à usage domestique d'un diamètre de 35 à 40 cm, d'autres à caractère plus professionnel pouvant atteindre 70 à 80 cm de diamètre. Ces meules étaient réalisées en roche dure. Dans nos régions, il s'agit le plus souvent des roches volcaniques provenant des carrières et tailleries quasi industrielles d'Agde, qui en exportaient par mer, mais en fournissaient aussi à l'arrière-pays de montagne. Nous en avons retrouvé dans les basses Cévennes, dans les basses comme dans les hautes Cévennes. Donc, la meule gisante, la plus basse, appelée Meta, présentait une surface supérieure qui est légèrement conique. Elle est de faible hauteur et elle correspondait à la surface intérieure de la meule courante désignée sous le nom de Catilus. Cette meule présente une dépression au-dessus de manière à pouvoir recevoir le grain qui coule à travers le yard entre les deux meules et la farine ressort sur se répandait en périphérie. Les ustensiles domestiques étaient actionnés à la main, manuellement, tandis que les professionnels utilisaient l'énergie animale ou des esclaves. Un monument funéraire de Narbonne montre de manière schématique un de ces moulins entraîné par un cheval. Voilà. C'est l'illustration dessous qui représente donc la gravure de ces moulins qui est entraînée par un cheval. La meule supérieure est très grande, très lourde et écrase le grain sur la meule inférieure. L'usage des moulins domestiques à bras a perduré longtemps, sans grande évolution. La meule dormante évolua cependant vers une forme ne laissant couler la farine qu'en un seul point. Des modèles proches étaient encore fabriqués et utilisés au XIXe siècle sous le nom de moulin à sel qui étaient utilisés pour réduire le gros sel. Donc ça, on trouve ça dans tous les masses des Cévennes. De ce type de meules, ils sont fabriqués en frédéronite dans les vallées bornes françaises et les grands spécialistes en Languedoc, c'était la commune de Moulezan, les communes de Moulezan et de Montagnac qui les exécutaient en calcaire de lin. Les moulins à traction animale se sont maintenus pour des travaux peu consommateurs d'énergie et éloignés des cours d'eau, comme ceux destinés à pulvériser l'argile séchée dans les tuileries et les poteries, ou ceux écrasant les olives. On peut citer par exemple le moulin à huile troglodytique de Maguiel, dans la commune de Saint-Paul-Lacoste, installé dans une grande excavation naturelle d'une falaise dolomitique, loin du ruisseau, donc il ne peut pas utiliser l'énergie hydraulique, mais au centre d'une très très grande oliveraie, une zone grandement productrice d'olives, et donc les meules pour écraser les olives étaient actionnées par un animal. Toutes les poteries étaient aussi équipées de ce genre de meules. Alors, maintenant, de l'utilisation de l'énergie hydraulique pour actionner les moulins. Le moulin à eau est vraisemblablement apparu en Orient méditerranéen au 1er siècle avant notre ère. Vitruve le décrit à cette époque, le désignant encore sous son nom grec de hydralette. Son développement restera longtemps très limité, à l'exception de quelques sites remarquables, comme la spectaculaire manerie gallo-romaine de Barbegal, près de Arles, avec ses deux séries de 8 roues hydrauliques chacune, actionnant globalement 32 moulins, avec une production de 28 tonnes de farine en 24 heures. Bon, ce sont des sites assez exceptionnels qui se visitent aujourd'hui, et c'est très très intéressant de voir la manerie de Barbegal. Une des toutes premières mentions régionales est sans doute celle du cartelaire d'Agnan, datant de 821, et située à Saint-Hilaire-de-Bretmas, domaine au voisinage du castrum d'Andouze, d'après le texte, dans le district de Nîmes. Donc, le texte, c'est une mutation et, d'un domaine, d'une domus, avec ses terres cultivées et incultes, avec ses vignes et arbres qui y sont complantés, avec ses prés, pâturages, bois, garignes, avec ses aires d'implantation de moulins, au pluriel, et les moulins eux-mêmes, eau stagnante et courante, avec toutes ses dépendances et ce qui est adjoint. Donc ça, c'est, pour le Languedoc, certainement une des toutes premières mentions. La première figuration, par contre, de ces moulins médiévaux, est une stèle de Saint-Guillaume de Désert qui est la stèle funéraire de Bernard de Mèze qui fut abbé de Gélonne de 1970 à 1989 et qui donc représente un moulin avec une double roue hydraulique. D'invention antique, le moulin à eau est médiéval pour son développement. En effet, la nécessité sociale à l'époque romaine où la main-d'œuvre servile abondait ne justifiait en rien les coûts élevés de construction de ces machines. Ce n'est qu'à la fin de l'Empire que cette nécessité émerge pour s'affirmer au XIe et XIIe siècle, sans pour autant que sa victoire soit totale partout. Rappelons enfin que le développement médiéval de l'usage de la roue hydraulique pour actionner les moulins à farine ne s'est pas limité à cette seule activité, mais en a gagné bien d'autres. En premier lieu, celles fonctionnant grâce à un mouvement circulaire continu, comme les moulins à huile et plus tardivement les moulins à temps, la coutellerie, les tourneries industrielles de bois et de façon plus rurale le décortiquage des châtaignes, et enfin le travail de la soie. Dans la vallée de l'Arre et de l'Hérault, bon nombre d'ateliers de moulinage se sont installés sur un ancien site de moulin à céréales. Par ailleurs, l'emploi de la came, découverte antique dont l'essor réel à l'image de la roue hydraulique et pour les mêmes raisons n'est que médiéval, a permis la transformation du mouvement circulaire en mouvement linéaire de va-et-vient, le retour étant assuré par la masse de l'outil ou un ressort ou enfin un contrepoids. Les applications ont été nombreuses et variées. Dans la métallurgie, pour actionner les souffleries et les marteaux-pilons, les souffleries qui étaient constituées par d'énormes soufflets, qu'on nommait les boules, et les marteaux-pilons, on le voit sur cette gravure tirée de l'encyclopédie de Diderot, donc les marteaux qui battaient le métal, les lingots de fer, obtenus, étaient travaillés à la forge avec ces marteaux. Donc, on a une roue hydraulique qui n'est pas représentée là, l'arbre à came, la came qui permet de soulever le marteau, qui retombe par son propre poids, là il est assez lourd, et en plus qui est muni d'un ressort qui le fait tomber de façon très forte sur le métal qu'on est en train de travailler. Et donc, en Cévennes, on a utilisé aussi les martinets avec l'énergie hydraulique. Une autre application que l'on retrouve alors encore plus fréquemment en Cévennes, c'est le moulin pour fouler les draps dans les moulins foulons, très nombreux dans les Cévennes, qu'on appelait aussi en occitan moulin massié, paraire, paradis, paradou. Quand vous trouvez ce genre de terme ou encore batanaire, viennent du nom des battants, qui sont les marteaux, les maillets de bois qui foulaient les étoffes dans des cuves. Donc quand vous trouvez ces termes, ben, vous savez que vous avez affaire à des moulins qui foulaient le drap. Le drap était foulé dans l'ammoniac qui était d'ailleurs de l'urine qui était récoltée pour ce faire. Donc, même principe, un arbre à came. Voilà la roue hydraulique qui apparaît derrière, c'est toujours l'encyclopédie de Diderot, et les cames qui permettent de monter les maillets qui battent le tissu. Le médiéviste Jean Pellet donc de la région du pied du mont Lozère, écrivait. Dès les plus anciens actes dont je dispose, je puis dire qu'il est question de moulins au sens large dans les vallées sévenoles. Pour Genoillac, par exemple, la plus ancienne mention est une transaction de 1199 entre l'évêque d'Uzès et les Bermondes d'Anduze. Il évoque aussi un moulin de Resse, c'est-à-dire une scie, dans la région de Genoillac en 1448, une autre à Ponteil en 1449. Pour les Martinet, le spécialiste Jean d'Autun précise que les textes en font état au XVe siècle. Au XVIe siècle, les statistiques se généralisent. En Genoillac, en 1515, sur 12 moulins, 3 étaient drapiers. À Aulas, en 1550, on dénombrait 17 moulins, dont 9 bladiers ou à farine, 6 massiers ou foulons, et 2 auliers, c'est-à-dire des moulins à huile. Petite précision, lorsque l'on rencontre le terme de l'adjectif bladier, qui vient de bla, qui est la traduction de blé, un occitan ne désigne pas seulement le blé froment. Ça peut désigner le blé froment, mais aussi les céréales d'une façon générale. Et donc le moulin bladier est un moulin à farine servant à moudre aussi bien le seigle que le froment ou d'autres variétés de céréales. Les Cévennes sont bien équipées en moulins de toutes sortes. En 1550, dans le diocèse de Nîmes, dont le diocèse d'Alès n'a pas encore été détaché, la partie cévenole identifiée par la Châtaigneraie, qui contient pas moins du quart des villages, 43 sur 179, possède en revanche le tiers des moulins recensés, 137 moulins dans les Cévennes sur 397 dans l'ensemble du diocèse. Au Moyen-Âge, la construction d'un moulin est un investissement important que seuls les seigneurs et les communautés religieuses pouvaient financer. C'était par ailleurs une source de revenus importante. En effet, dans le système féodal, les cours d'eau navigables appartenaient au domaine royal et les non navigables étaient la propriété du seigneur au justicier qui en contrôlait la gestion et n'accordait la faculté d'en dévier une partie pour l'irrigation ou pour un moulin que par un acte de cession moyennant une rente annuelle perpétuelle. En outre, en certains lieux, la banalité se traduisait par des prélèvements substantiels sur les usagers. Il s'agit d'une pratique féodale consistant à obliger les populations à utiliser les équipements du seigneur suzerain, le moulin, le four, le pressoir, en payant une redevance spécifique en plus du coût de la façon. Dans le cas du moulin banal, c'était le droit de mouture, payé en nature, en grains, ou au moyen de mérot de plomb, qu'il fallait initialement acquérir auprès du seigneur, ou plus exactement de son vivier. Voilà donc ce type de mérots de plomb, qui sont des petites pièces de plomb qui mesurent 12 à 14 mm de diamètre. Et on voit que les mérots utilisés donc, pour le moulin banal sont une représentation soit de la roue hydraulique, soit des meules elles-mêmes. Le plus souvent, le seigneur ne percevait pas lui-même les recettes de la banalité. Il affermait cette charge à un fermier en échange d'une somme fixée annuellement. Toutefois, la pression féodale et la règle de banalité des moulins, comme des fours à cuire, extrêmement rigoureuses dans les régions du nord de la Loire, furent diversement appliquées dans le temps et l'espace occitan, et tout particulièrement en Cévennes, réputés pour leur féodalité éclatée. Ne disait-on pas que les seigneurs cévenols étaient trois dans un œuf, monsieur du blanc, monsieur du jaune et monsieur de la coquille. Certaines communautés d'habitants bénéficièrent très tôt de chartes qui allégeaient la pression féodale. Ainsi, la charte d'Alès de 1200 précise, pour ce qui nous concerne, que chacun soit libre de moudre et de cuire où et quand il voudra, sans l'opposition des baillis, des seigneurs, ni de qui que ce soit. Des dispositions semblables figurent dans la charte d'Anduze de 1217. Dans un autre secteur, en terre d'Hierne, et plus précisément dans la paroisse d'Aulas, le baron d'Hierne, Guillaume d'Anduze, qui avait de pressants besoins d'argent en 1275, accorda aux habitants d'importantes franchises moyennant le versement de 600 livres tournois. Ces franchises furent énumérées et confirmées en 1361 et on peut lire. Les habitants d'Aulas et leurs prédécesseurs sont en possession et l'ont toujours été jusqu'à présent de faire moulins et fours dans leurs terres et possessions et de dériver les eaux de ruisseaux soit pour arroser leurs possessions ou pour faire des moulins sans l'autorité du seigneur. En d'autres lieux, en revanche, les seigneurs ont conservé leurs prérogatives plus longtemps. Achille Bardon donne l'exemple de Guillaume Petit, boulanger d'Alès, qui, ayant obtenu du seigneur de Porte une prise d'eau dans le Gardon au territoire de Saint-Michel-de-Dèze pour établir un martinet, se retrouve avec le notaire le 3 septembre 1487 sur les lieux afin de choisir le point précis où il construira le barrage dans les limites que lui a donné le seigneur. Arrivé au mas de la Grosse Rouvière, jugeant l'emplacement favorable, Petit marche pieds nus dans l'eau et marque l'emplacement d'un amas de pierres. Il va sans dire que l'exploitation des droits d'eau liés au moulin comme à l'irrigation a engendré une multitude de contestations et procès. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus, ça serait l'objet de notre causerie. Pour en terminer avec cet aspect des choses, signalons qu'en cas de sécheresse, ce sont les moulins bladiers qui restent prioritaires. Ainsi, à Saint-Hippolyte-du-Fort, une réglementation en date de 1732 indique que les prés ne seront plus arrosés après la coupe du regain et que les industriels de la laine, les moulins foulons, n'auront l'eau que si la ville est approvisionnée en farine. Le conseil pouvant faire remettre les scellés sur les moulins paradoux pour les immobiliser. Cette situation provoqua le vif mécontentement des industriels incapables de tenir leurs engagements pour la foire de Beaucaire du 22 juillet. Ils proposèrent sans succès de faire moudre le grain à Ganges. En 1767, à Saint-Jean-de-Gardoninck, le conseil décida, de point, je cite, « Les habitants qui sont sur le bord de la rivière de Gardon et des ruisseaux qui ont des prises d'eau, sources ou réservoirs, devront les laisser couler le long de la rivière et des ruisseaux pour qu'elles puissent aller jusqu'aux 10 moulins. » Il s'agissait de 4 moulins bladiers installés sur le Gardon. Alors maintenant, évoquons plus particulièrement la roue hydraulique que l'on nomme le roudet. Ça s'écrit rodé, mais en occitan, il faut prononcer le roudé, qu'elle soit verticale ou horizontale. Le principe du moulin à eau consiste à utiliser le courant naturel d'un cours d'eau ou d'un canal dérivé ou d'une chute d'eau provoquée pour actionner une roue hydraulique qui transmet un mouvement circulaire à un axe. Cette roue, ou roudé, en occitan, est le symbole du moulin comme nous l'avons vu avec les mérons médiévaux. Elle a donné des toponymes tels que roudé ou le rode, bien que pour ce dernier la prudence soit de mise, en effet, d'autres interprétations pouvant être avancées en vieux languedocien, rode, alors R-O accent grave, c'est-à-dire en prononçant O, le rode est un endroit buissonneux, plein de buissons, donc il peut y avoir confusion. Il existe deux grandes familles de roues hydrauliques, les verticales avec un axe horizontal et les horizontales à axe vertical. Et il est bien difficile de savoir quel est le dispositif antérieur à l'autre. La description de Vitruve du 1er siècle avant Jésus-Christ concerne la roue verticale. Vitruve, en fait, a décrit la roue élévatrice d'eau semblable aux meuses de Ganges et a expliqué qu'une roue identique, munie d'un renvoi à l'équerre, peut faire tourner une meule de moulin. Alors, il s'agit donc de la roue à aube, hein, qui est la roue verticale, son axe est horizontal. La roue à aube ou à luchon ou à libre en occitan, dont les enfants s'inspirent hein, pour faire les moulinets. Cette roue est naturellement assez pratique lorsque l'axe qui va actionner les machines est horizontal, comme on l'a vu pour les martinets ou pour les moulins à foulon. Dans le cas des meules, ben, il faut faire un retour d'angle de 90 degrés grâce à un dispositif d'engrenage entre le rouet et la lanterne, et donc c'est un axe vertical qui tourne et qui peut entraîner une meule. La roue horizontale, maintenant. La roue horizontale est employée dans deux dispositifs différents. Le moulin à cuve ou à tonnelle en français, ou moulin à tine en occitan. La roue motrice est installée dans une cuve cylindrique ouverte par le bas. Le canal d'arrivée d'eau débouche tangentiellement à cette cuve, juste au-dessus de la roue. L'eau lancée contre la paroi cylindrique s'évacue dans un mouvement circulaire entraînant la roue. Ces moulins nécessitent un débit important et ont été installés sur les cours d'eau principaux. Nous n'avons pas repéré ce type de moulin sur le terrain, mais seulement au travers des archives. Par exemple, Jean et David Beau de Possan, paroisse de Mialet, ont donné à Prifé en 1630 la restauration de leur moulin. Il s'agit du moulin situé au lieu-dit aujourd'hui Moulin de Beau, d'ailleurs, sur le gardon de Mialet, en amont du Massoubeyran. Et donc, le préfet note accommoder le fondement de la crotte, qui est la voûte de la salle des machines, que l'inondation de l'eau de la rivière de Gardon a ruiné. Faire deux roudés, l'un au moulin bladier et l'autre au moulin à huile, deux tines au dit moulin, et aussi du moulin drapier à roue et canal du dit moulin drapier et y employer des fustes et autres bois nécessaires, celui qui était auparavant étant pourri. Ce texte différencie bien par le vocabulaire la roue verticale du moulin foulon, des roues horizontales placées en cuve, des moulins bladiers et aulis. Et on pourrait donner d'autres citations. J'ai un texte en 1628, moulin de Rabassarier à Saint-Jean-du-Gard, etc. Donc, de moulin dit à tine. Le moulin dit à trompe ou tourille en français, tourille en occitan, pardon. Boissy de Sauvage le définit ainsi. Petit moulin à farine que l'eau d'un ruisseau fait tourner et dont la roue horizontale qui porte les aluchons n'est point enfermée dans une tonnelle comme celle des moulins à tonnelle de rivière. Ici, la roue reçoit l'eau en chute d'une buse, trompe ou passalis en occitan. C'est le type de moulin le plus répandu dans le domaine cévenol. Les Cévennes manquent de travaux précis permettant d'esquisser la répartition des moulins médiévaux en fonction du type de roue et d'en suivre l'évolution jusqu'au temps moderne. Il semble qu'on puisse extrapoler les travaux menés sur l'Hérault voisin qui conclut que globalement la roue verticale correspond aux régions de plaine, l'horizontale aux contrées montagneuses. Au temps moderne, nous trouvons des roues verticales en Cévennes seulement quand c'est techniquement indispensable pour les foulons, les martinets, les moulins à papier, les scies. Presque toujours, les grands moulins de rivière ont plusieurs fonctions, au moins deux, bladier et aulier ou bladier et drapier, souvent même les trois, associés en roue horizontale et roue verticale, comme nous l'avons déjà évoqué. Si nous prenons l'exemple à Saint-Jean-du-Gard, les trois grands moulins proches du Gardon sont mixtes. Celui de Cambonéral consiste en deux bladières et un moulin paradou, ou un foulon. Celui de Rabassarier consiste en un triple moulin bladier, un grudoir, c'est-à-dire une meule à gruau, on y reviendra, un foulon. Au XVIIIe siècle, on adjoindra un quatrième moulin, un moulin aulier. Enfin, celui de la Bastide consiste en deux moulins bladiers, un grudoir, un moulin à gruau, un foulon, un moulin aulier et un moulin à rusque, c'est-à-dire à temps, la rusque étant l'écorce de chêne vert que l'on pulvérisait, faisait sécher et qu'on pulvérisait afin de l'employer pour le tannage des cuirs. La statistique impériale de 1809, analysée par Henri Poupée et Claude Rival, permet une cartographie des moulins montrant une France coupée en deux. Au nord, prédomine la roue verticale. Au sud, dans ce qui correspond pratiquement au domaine occitan, prédomine la roue horizontale. Il est tentant d'associer le choix d'une technique à un environnement culturel. La Lozère comptait en 1809 1268 moulins, soit 1 pour 100 habitants seulement, répartis en 416 verticaux et 852 horizontaux. Le Gard comptait 777 moulins, un peu moins que la Lozère, soit 1 pour 355 habitants, répartis en 234 verticaux et 453 horizontaux. La quasi-exclusivité de la rue horizontale en Cévennes et la densité des moulins à trompe ne sont pas pour surprendre outre mesure. En effet, ce dispositif à roue horizontale, avec des meules en prise directe sur la roue hydraulique, est de loin le moins coûteux. Les fortes dénivelées ne sont pas désavantageuses, au contraire, elles facilitent un bon tirant d'eau. On a même pu les mettre à profit pour construire des moulins à deux et même trois niveaux, les moulins inférieurs récupérant l'eau à la sortie de la roue immédiatement supérieure. Signalons le moulin à deux niveaux de la moulinerette à Colognac, que je cite parce qu'il vient d'être, il restait pluriel, c'était une ruine complète, il vient d'être totalement restauré et remarquablement restauré, ou celui du Poujol à Sanissac, donc sur le Rieu Thor, qui lui est à trois niveaux. Donc ces moulins à roue horizontale, à tine, s'accommodent parfaitement de cours d'eau à faible débit ou à débit très irrégulier. Ces modestes moulins sont peu propices aux grandes meuneries. Ils répondent en revanche parfaitement aux besoins des petites communautés. Bien adaptés à la géographie cévenole, ils correspondent sans doute également à l'affirmation d'une volonté d'individualisme et d'affranchissement particulièrement exacerbé en pays cévenol. Pays cévenol est une des régions où la densité des moulins est la plus forte. Alors, dans cette seconde partie, nous allons aborder le moulin Bladier à trompe ou mouli à tourille en occitan. Donc, c'est le type le plus répandu dans les Cévennes, nous l'avons dit, et dans toutes les vallées, y compris les plus petites, et jusqu'au sommet du Mont Lozère, il est partout en grand nombre. Nous allons examiner plus précisément le fonction de ce moulin. Alors tout d'abord, le rapport du moulin avec le cours d'eau. Ce type de moulin n'est jamais établi à même le cours d'eau, mais sur une dérivation. Une prise dévie une partie de l'eau acheminée par un canal vers un réservoir de stockage. C'est la vidange de ce dernier qui alimente le moulin situé en contrebas. L'eau est ensuite restituée au ruisseau. Si le débit de la prise est égal à celui de la vidange, le moulin peut tourner en continu. Mais ce n'est naturellement pas le cas de ceux alimentés par des ruisseaux à faible débit, qui ne peuvent moudre que par éclusée ou resclausade, c'est-à-dire par vidange successive de la réserve. La resclausade désigne aussi la contenance de la réserve. Quant au verbe resclausar, il signifie moudre par éclusée ou amasser l'eau pour un moulin fonctionnant par éclusée. Dans le cas extrême de très faible débit, voire d'assèchement total du cours d'eau en période d'étiage, il faut attendre la pluie pour à nouveau faire tourner le moulin, d'où leur nom d'escoute-séplon. On dit d'un moulin qu'il veille quand il manque d'eau ou de blé. Alors, nous allons voir de plus près un aménagement hydraulique. L'aménagement hydraulique constitue un occitan, une levade, c'est-à-dire une levée, une prise d'eau. La pièce majeure, c'est la Païssière. C'est le barrage qui coupe la rivière et qui permet d'en dévier une partie vers le canal. Ce nom de Païssière vient du fait qu'à l'origine, les plus anciennes étaient construites, c'était des pieux, des trous étaient creusés dans le rocher, des pieux, et des entrelacs de branches. Donc c'était des barrages qu'il fallait refaire chaque année. Donc la Paissière est faite avec des pieux, d'où l'origine du nom. Il faut dire quand même que dans l'époque médiévale, on a commencé à les maçonner, et c'est essentiellement pour les moulins que l'on a commencé à faire des chaussées maçonnées. Ces chaussées maçonnées, dans le cas des moulins, portent aussi, parfois, dans certains endroits, le nom de Resclaus que l'on vient de voir à propos de la gourgue tout à l'heure. Le canal acheminant l'eau vers la réserve que l'on voit là, taillée dans le rocher, est le Bézal ou Bézau, ou par altération Béal. Boissy de Sauvage traduit aussi bouillre par bief de canal ou canal de moulin, mais dans ce cas, il ne faut pas confondre, il s'agit des biefs sur lesquels sont installés les moulins à roues verticales, puisque c'est le courant de l'eau dans le canal qui fait tourner la roue. Ça n'a rien à voir avec les béals de nos Cévennes. En général, une vanne qu'on appelle esclafidou commande l'entrée du canal et permet une restitution immédiate de l'eau au ruisseau quand le moulin est au repos. La réserve, donc, appartient à la famille des gourgues. Mais dans le cas des moulins, elle peut aussi s'appeler boutade. Elle n'a pas de forme précise, mais s'adapte au terrain. Au droit de l'office de la vidange, il y a un remous qui se forme à la surface de l'eau, un mouvement circulaire qui forme une dépression conique et que l'on appelle le remouli. Et les enfants aimaient bien s'amuser avec des feuilles qui tournaient dans le remous fait au-dessus de la vidange. Alors là, on est sur un exemple qui ressemble pas mal au moulin de Rieussé. Donc on a une boutade de forme en croissant de lune, une gourgue, avec le moulin nettement en contrebas pour donner le tirant d'eau. Et puis, on a deux ruisseaux, le moulin étant situé dans la confluence, et on a les béals qui conduisent l'eau des ruisseaux avec l'esclafidou qui permet de restituer immédiatement l'eau au ruisseau lorsque le moulin ne tourne pas.